les jardinières.
Salut à tous et bienvenue dans les jardinières. Comme chaque samedi, nous sommes ravis de vous retrouver pour une session jardinage. La neige refroidit la terre de nos jardins, mais pas notre motivation évidemment à prendre soin de nos plantes. Et puis aujourd'hui, je suis bien accompagnée pour cette heure de questions. Bonjour Mylène.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Philippe Detra, horticulteur bio au Jardin des Senteurs à Neuchâtel pour répondre à vos questions. Bonjour bon, Philippe.
Bonjour, je suis un petit peu enroué ce matin. Mais voilà.
Ah ben on est deux. Mais c'est la première fois que nous nous retrouvons dans le mois de février, deuxième mois de l'année, mais les moyens pour poser vos questions, eux, n'ont pas changé, Mylène.
Vous pouvez nous joindre en composant le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Par téléphone, vous pouvez discuter directement avec notre jardinier professionnel du jour. Et sinon, vous pouvez le faire par écrit, par exemple par SMS. Vous envoyez le mot « jardin » suivi d'un espace et de votre question avec un maximum de détails que vous envoyez au 939. Et il y a aussi le formulaire présent sur nos sites internet sous l'onglet « Questions aux jardinières ».
Eh ben, je crois que tout est dit, Mylène. On est parti jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Et on commence avec Margaret et ses rêves de printemps. Elle aimerait préparer ses semis et ses plantons parce qu'elle aimerait être prête, hein, tout simplement, pour la belle saison. Est-ce qu'elle peut déjà planter ses petites graines en intérieur? Et si oui, lesquelles? Philippe.
Alors franchement, je dirais pour le moment, calme.
Ah, restons encore un petit peu dans, dans la douceur de l'hiver, justement, pour mettre tout ça, on reste à l'arrêt.
Oui, tout à fait. Donc, je ne sais pas du tout de quoi elle parle comme petite graine. Mais si elle pense à des légumes, des tomates, des poivrons, des piments ou des courges ou des courgettes. Les courgettes, par exemple, tout ce qui est cucurbitacé relativement tard, on les sème autour de fin mars parce que ça pousse très vite. Donc, si elle les sème trop tôt, elle va avoir des jeunes plantes qui vont pousser, il n'y a pas de problème, mais qui vont s'étioler. Donc, ils vont s'allonger très vite au chaud et avec pas beaucoup de lumière. Puis après, elle sera très vite enquiquinée parce qu'elle ne saura pas où les mettre.
Moi, j'ai une question. On a planté des patates douces. On les a déjà mis dans l'eau. C'était trop vite.
Alors, écoute, Mylène, je sais pas. Les patates douces, je les ai jamais cultivées, mais je pense que c'est quand même un peu trop tôt.
D'accord.
Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait planter maintenant si vraiment on veut prendre de l'avance pour le printemps? Rien, on reste, il y a rien qui.
Vous pouvez planter les idées.
Ah ouais.
C'est-à-dire, c'est-à-dire faire votre planification du jardin et puis à l'aide de bouquins ou de jardins, enfin de livres sur le
sur le jardinage
jardiner avec la lune
par exemple, voilà, c'est ce que je voulais dire, et puis avec internet éventuellement aussi vous pouvez planifier votre jardin, donc ça vous pouvez planter les idées, ça c'est bon, et puis ensuite une fois que c'est fait, vous n'avez plus à vous casser la tête, vous faites quand il le faut.
On va parler potager avec une question d'Alice de Delémont. Elle a un grand potager et se demande, avec les températures qui sont de plus en plus froides, s'il faut protéger son jardin. Pour le moment, elle n'a rien mis dessus. Que doit-elle faire?
Donc c'est à Delémont, c'est ça?
Oui. Voilà.
Ouais, voilà. Donc non, il n'y a rien à faire pour le moment. J'entends laisser la neige fondre. Donc si on parle bien de l'époque, enfin du moment actuel, quoi.
Oui, de maintenant.
Il n'y a rien à faire de particulier.
Et on va enchaîner avec une question étang, en parlant de froid, parce que Paul justement a un étang dans son jardin, il est tout gelé. Il se pose la question suivante, est-ce que je dois briser la glace? Alors oui ou non? Paul nous écrit de la Neuville. Philippe Détresse, est-ce que vous pouvez aider Paul? Est-ce qu'il doit briser la glace de son étang ou pas?
Alors, ça dépend comment est fait l'étang. Je dirais que non. En principe, s'il fait froid, cette glace, s'il la brise, elle va regeler immédiatement. Donc ça, ce n'est pas un souci. Par contre, on peut imaginer de mettre des objets sur l'eau, comme par exemple des pneus, un pneu ou des gros morceaux de Sagex qui vont...
Oui, ça on a déjà vu.
Qui vont... Comment dire, ils vont supporter la pression de la glace, voilà, plutôt que de faire éventuellement casser les bords de l'étang. Enfin, s'il est enterré, c'est pas un problème, cet étang. Mais si c'est genre piscine, c'est bien d'avoir des objets qui peuvent accepter la pression de la glace.
On parle arrosage avec Patrick. Il a un récupérateur d'eau de pluie chez lui et il aimerait savoir s'il peut utiliser cette eau pour ses plantes d'intérieur. Il a entre autres des orchidées, un palmier, un ficus et des aloe vera.
Oui, tout à fait. Donc nous, on le fait couramment. Sur les serres, on récupère l'eau qui tombe, l'eau de pluie, on les a dans des bassins. Mais par contre, il faut bien penser à une chose, peut-être pas qu'il apprécie la douche glacée du matin. Donc pensez à la même chose pour les plantes. Donc cette eau, il faut qu'elle soit tempérée, c'est tout.
On ne doit pas la laisser reposer. Non,
en principe, l'eau de pluie ou de neige est assez neutre. Et puis... Mais par contre, si elle est froide, c'est pas super cool pour les plantes, quoi.
Et on a reçu un SMS, hein, Philippe Détra, de la part d'une personne qui habite à Cudrefin. Elle aimerait y installer un bac à sable pour les enfants. Que faire pour que le gazon ne s'abîme pas ?
Ne pas avoir d'enfants.
Voilà, déjà, premièrement.
Hein. Là, je vois pas trop le rapport entre le bac à sable et le gazon.
Mais je pense qu'il imagine que ses enfants vont jouer au sable et que le sable va aller partout dans le gazon.
Ou alors, c'est à mon avis, moi je l'ai compris comme ça aussi. C'est ouais, que c'est le sable qui viendrait recouvrir le gazon.
Les enfants, ils vont jouer aux petits chiens dans le sable et puis ils vont en mettre partout, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, c'est ça.
Ouais, ok. Disons que c'est pas très grave parce que le sable il va être bénéfique pour le gazon parce qu'il va permettre en s'incrustant dans le sol d'aérer le gazon. Mais moi je pense qu'il y a pas d'inquiétude.
Ah donc ça peut être même être un avantage en fait pour le gazon.
Ouais, mais elle va pas faire de son gazon un bac à sable ou bien.
Alors non, apparemment là c'est vraiment juste mettre un bac à sable pour les enfants. En tout cas, bon, le bac à sable c'est pas encore pour maintenant, mais par contre une petite pause musicale, ça c'est pour tout de suite. Vous pouvez, vous qui nous écoutez, poser vos questions, il y a plusieurs moyens, hein, Mylène.
Et toujours le téléphone au 0900 70 20 20, 36 centimes la minute et la chance de parler directement avec Philippe Détra, notre invité ce matin. Le SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question avec un maximum de détails, SMS que vous envoyez au 939 ou via le formulaire disponible sur nos sites internet.
7h, 8h, les jardinières.
Et on va revenir sur le bac à sable de Cudrefin. Alors, si le sable est bénéfique pour le gazon, on se demandait si poser un bac à sable au milieu d'un gazon, qu'est-ce qui va se passer dessous ?
Il va se passer exactement comme si vous posez une piscine ou des dalles. Donc, après une dizaine de jours, le gazon qui va être complètement à l'obscurité, eh bien, va mourir, mais ça, c'est pas un gros souci. Le jour où ses enfants sont un petit peu plus grands, puis qu'il veut enlever le bac à sable, il remet un petit peu de terre, il gratouille un peu la terre, il sème du gazon, puis c'est reparti.
Et on a reçu une question de Thierry de Alain, qui est matinal ce matin, qui est comme tous les matins d'ailleurs, qui a un pommier mitige avec des pommes véreuses et tachées noires. En 2018, des sortes de chenilles en troupeau sont venues s'ajouter à tout ça. Quel produit bio et respectueux de la nature est-ce qu'il peut utiliser pour avoir de belles pommes en 2019 sans tous ces ravageurs ? Et surtout, à quel moment l'appliquer ? Philippe Détra, est-ce que vous avez un petit indice, une petite astuce sur toi à donner ?
Ouais. Je vais l'envoyer sur un site. Je ne sais pas si on peut faire un petit peu de publicité, mais c'est des produits qui sont tout à fait autorisés en bio. La plupart du temps, c'est Biogarten. Il va probablement trouver la bonne piste. Maintenant, s'il y a des vers, c'est qu'il y a des papillons qui ont posé des œufs à un certain moment sur ces fruits. Et puis ces œufs ont éclos. Ensuite, les larves sont rentrées dans les... En fait, ce n'est pas des vers, c'est des larves qui sont rentrées dans les pommes. Donc en bio, n'étant pas arboriculteur, je ne sais pas s'il y a un produit miracle là contre. Par contre, ce site, Biogarten, va lui permettre en français ou en allemand de trouver très probablement la bonne combine.
Un petit verre dans une pomme, à part que ça soit peu...
C'est des protéines.
On peut le virer et puis manger la pomme, il n'y a pas de souci.
Ouais, vous pouvez manger le verre aussi.
Ah oui.
C'est de la viande. Hein.
Bah oui. Bon, sauf pour
ça
les végétariens.
À la mode,
voilà.
Ça vient à la mode.
Voilà. Merci Philippe. On va parler d'un cymbidium. Pour la première fois, mon cymbidium, qui a une dizaine d'années, développe une magnifique hampe florale. Mais les boutons ont du mal à s'épanouir. Avez-vous une solution ? C'est Suzanne qui pose la question.
Bon, alors d'abord, bravo, parce que pour faire refleurir des cymbidiums, c'est pas mal.
Alors expliquez-nous quand même ce que c'est qu'un cymbidium pour ceux qui nous écoutent.
C'est une orchidée qui n'est pas très courante, qui est relativement chère, qui peut durer des années. Et qui doit passer un moment au frais après la première floraison pour pouvoir refleurir l'année suivante.
Est-ce que c'est cette orchidée qui n'a qu'une seule fleur ou
non.
Rien à voir? Non, c'est pas celle-là.
Okay. Non, non, c'est une ampe florale qui a souvent entre 10 et 20 fleurons. En fait, les fleurs, on les appelle des fleurons. Et ça se trouve assez couramment en magasin de fleurs. Parfois même, les petits fleurons sont piqués dans de la mousse synthétique pour faire des petites décorations de table. Mais c'est non, ben alors chapeau. Hein.
Et puis, qu'est-ce qu'elle peut faire pour ces boutons qui ont du mal à s'épanouir?
Ah bon, on ne peut rien faire. J'entends, si déjà il a fait des boutons, c'est qu'il a envie de fleurir. Donc, ne pas lui laisser trop d'eau. Attention, hein, pas trop d'eau dans les cache-pots parce que c'est un danger, ça fait pourrir les racines. Attention aussi à ne pas la laisser avoir trop soif. Dans ce cas-là, il va se passer exactement la même chose. Donc les racines ne vont pas pouvoir absorber d'eau et les boutons vont tomber. S'ils tombent, c'est parce qu'il y a eu un souci au niveau racinaire la plupart du temps.
Et tant qu'on est sur le sujet des orchidées, Philippe, je vous disais tout à l'heure, hors antenne, que j'avais ma vieille orchidée qui avait redonné des nouvelles feuilles et des nouvelles pousses. Est-ce qu'il y a un traitement tout particulier à lui donner, justement, vu qu'elle a tout fraîchement repoussé? Est-ce qu'il faut plus l'arroser? Est-ce qu'il faut la garder à une certaine température? Ou bien faire comme avant, finalement, et puis attendre que les fleurs arrivent?
Je crois que c'est ce qu'il faut faire, en fait, parce que si elle se remet à pousser, c'est qu'elle va bien. Et oui. Très difficile de dire, d'imaginer de ce que c'est comme orchidée. C'est la famille, la famille des orchidacées, c'est la famille la plus riche en espèces. Donc, y en a qui poussent dans nos montagnes, dans les pâturages. Heureusement, la plupart des gens ne savent pas que c'est des orchidées, sinon ils iraient les couper. Et puis, il y en a qui sont dans des milieux tropicaux, il y en a qui vivent dans le désert avec des fleurs qui sont à peine sous le sable. Donc, on a vraiment une très grande diversité chez les orchidées. Maintenant, c'est beaucoup plus... on a pas grand-chose au niveau variété dans les magasins.
Et on n'en connaît pas beaucoup, finalement, de toute la variété d'orchidées qui existe.
Effectivement, mais il faudrait avoir le nom du genre et de l'espèce pour que je puisse donner les conseils les plus appropriés.
On va retourner au jardin avec une question serre. Je viens d'acquérir une petite serre. Elle fait 2 x 2 x 1,80 m. Et cette personne désire savoir si elle peut y entreposer ses plantes en pot qui sont fragiles pendant l'hiver.
Alors, faut imaginer qu'une serre, c'est juste un machin en verre. C'est une maison en verre ou en plastique. Voilà. Donc,
il fait froid
chauffage, s'il n'y a pas de chauffage, alors moi je conseille à cette personne d'aller dormir une fois en hiver dans cette serre. Et puis, si elle n'a pas froid, elle pourra y mettre ses plantes. Donc, le problème de ces serres, c'est juste que ça permet d'avancer un tout petit peu le printemps de, je dirais, 10-15 jours. Et puis de retarder l'arrivée de l'hiver de 10-15 jours aussi. Sinon, il fait presque aussi froid que dehors.
Mais donc, entreposer toutes les plantes dedans, ce n'est pas une bonne idée.
Sauf
si elle est chauffée. Ouais.
Voilà. Puis alors là, franchement, ça commence à... Ça fait vite des coups.
Autant les laisser à l'intérieur.
Ouais, ouais.
Les jardinières.
Eh bien oui, deuxième partie des jardinières, deuxième chance de poser vos questions à Philippe Détrat, horticulteur au Jardin des Senteurs à Neuchâtel. Vos questions, elles sont les bienvenues jusqu'à 8h et par différents moyens.
Oui Stéphanie, quelle que soit votre question, vous pouvez la poser soit au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute, mais on lit également vos SMS et vos formulaires. Pour rappel, il vous suffit d'indiquer le mot jardin au début de votre SMS, laisser un espace et puis taper votre question. Le tout doit être envoyé au 939 et puis le formulaire, vous le trouvez sur notre site sous l'onglet émission, questions jardinières. Dans les deux cas, n'hésitez pas à bien détailler votre problème.
Comme l'a fait Denis qui nous a envoyé un SMS, parce qu'il souhaite créer un jardin potager en bac de 50 cm de hauteur. Quel genre de mélange de terre compost doit-il utiliser et quand est-ce qu'il peut le commencer? Philippe Détrat, est-ce que vous pouvez venir en aide à Denis?
Alors, ça dépend où il se trouve, Denis.
Alors, c'est pas précisé, effectivement, ouais. Voilà. Ouais.
Donc, 50 cm, c'est bien. De profondeur, c'est pas mal. Il faut qu'il imagine qu'il y ait un drainage possible parce que s'il pleut longtemps, pendant, je sais pas, 10-15 jours, eh bien, ce bac va se remplir d'eau Donc il doit imaginer que l'eau doit pouvoir s'évacuer. Donc en général, on met un bac, on prend un bac, que ce soit en éternite ou dans une autre matière, ou en bois. Bah, avec le bois, ça va pourrir un petit peu avec le temps, c'est sûr. Donc des bacs qui sont troués au fond. Ensuite, on met des bouts de peau cassée, par exemple, sur les trous, pour éviter que la terre bouge ces trous. Ensuite, on peut mettre de l'argile expansée, comme on peut trouver dans les bacs en hydroculture, une petite couche de quelques centimètres, et un tissu comme ce qu'on trouve, j'ai juste plus le nom dans la tête, mais ou alors du plastique simplement, dans lequel on va faire des fentes pour séparer cette argile expansée de la terre qu'on va mettre par-dessus. Ensuite, au niveau de la terre, surtout ne jamais mettre qu'un seul truc. Donc jamais que du compost, jamais que de la terre franche, de terre de jardin ou des choses trop identiques. Il faut faire des mélanges. Après, les mélanges, ils peuvent être variés, c'est pas un souci, mais ça doit ressembler un petit peu à une terre de jardin.
Et si on ne fait pas de mélange, ça va pas pousser ?
Disons le problème, si on ne fait pas de mélange, si on ne met que du compost par exemple, eh bien la terre va se compacter énormément. Ça va empêcher les racines des plantes qu'il va planter ensuite de respirer correctement. Donc toujours faire des mélanges. Après, il peut y avoir beaucoup de tourbe, peu de tourbe, beaucoup de compost, pas beaucoup de compost, beaucoup de terre de jardin ou pas. C'est pas très grave. Mais il faut que ce soit des mélanges.
Et puis, 50 cm, c'est quand même pas mal. Est-ce qu'il peut mettre des vers de terre ? Parce que c'est bien, les vers de terre, pour aérer le sol.
Bien sûr.
J'imagine le type aller chercher des vers de terre.
Ouais, bien sûr, il peut mettre des vers de terre, mais je pense qu'il n'y a personne qui fait ça. Les vers de terre, s'ils utilisent du compost, ils vont venir tout seuls.
Ah, pas la peine d'aller en chercher, Mylène. Et puis, moi, j'ai une autre question par rapport au contenu. Qu'est-ce que vous conseillez comme plante ou bien comme herbe aromatique ? Est-ce qu'il y a des mélanges qui s'accordent mieux ? Est-ce qu'on peut se lâcher, mettre un petit peu tout ce qu'on veut dans ces jardinières surélevées ?
Ça dépend effectivement ce qu'il veut comme plante. S'il veut faire un jardin potager, potager sous-entend légumes. Donc, un terrain assez riche, un petit peu de terre noire, comme on trouve beaucoup dans le Zéland. Et puis si c'est des plantes plutôt aromatiques, genre, je sais pas, thym, romarin, lavande et compagnie, ça sera plutôt un sol plus drainant, plus qui va sécher un petit peu plus, comme on trouve plutôt dans le pourtour méditerranéen.
On va parler de petites bêtes maintenant. Daniel, il constate la présence de petites bêtes, des aleurodes, lui semble-t-il, sur ses plants de tomates. Bon, ça doit dater de cet été, j'imagine. Et il se demande quelle lutte biologique doit-il faire pour protéger ses tomates. On va parler de sa récolte 2019, du coup.
Voilà. Donc, les aleurodes, en fait, c'est ce qu'on appelle communément aussi des mouches blanches, en langage horticole. Qui ne sont pas des mouches d'ailleurs.
Et qui ne sont pas blanches.
Et qui sont blanches.
Ah bon ouais.
Essayez pas plus.
C'est pour ça qu'on les appelle mouches blanches. Voilà, bon, ça ressemble à des tout petites mouches minuscules. Ça n'en est pas, mais c'est pas très grave. C'est plus proche du puceron que de la mouche. Et effectivement, ça fait les mêmes dégâts qu'un puceron. Donc ça va piquer les plantes et sucer le contenu des cellules, qui va évidemment affaiblir les plantes. Maintenant, En culture bio, dès le moment où il y a des fruits, ben on ne va plus rien faire. Voilà. Donc, même un insecticide utilisé en bio, eh bien il va être relativement toxique quand même. Ce n'est pas parce qu'il est bio qu'il n'est pas toxique. Il est bio, donc il va se dégrader, lui, alors que les produits chimiques ne vont pas se dégrader. Mais une fois qu'il y a les tomates, vous oubliez, on ne traite plus, quoi.
J'ai lu que pour les pucerons, on peut pchiter du savon noir mélangé avec de l'eau. Mais si on met ça sur les tomates, après, c'est peut-être pas terrible de la manger. Mais si on vise que les feuilles, on peut ?
Ouais, c'est un peu compliqué. Maintenant, si vous mettez du savon noir puis que vous faites des bulles après avoir mangé les tomates, il ne faudra pas vous étonner.
Ok. Vous êtes avertis, en tout cas. Et on va passer à une question de Gabriel qui nous a envoyé un SMS. Je rappelle que vos SMS, vous pouvez les envoyer encore jusqu'à 8h au 939 en envoyant tout simplement le mot jardin, un espace et votre question. Ou alors, si vous voulez parler directement avec Philippe Détra, c'est le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Alors, Gabriel qui nous a envoyé ce SMS, justement, nous parle de son rosier de Banks Alba Plena. Planté en octobre, il a perdu ses feuilles à cause du froid récent. Est-ce qu'elle peut espérer sa reprise au printemps ou est-ce qu'elle doit prévoir l'achat d'un plan de remplacement ?
Alors, rosier de Banks.
Rosier de Banks Alba Plena. Voilà.
Oui, super. Eh ben, je vais devoir chercher un petit peu parce que là, je suis pas rosieriste. Ça tombe bien, ouais. Je suis pas rosieriste. Je connais pas ce rosier. Il y a des centaines de variétés. Donc,
on va vous laisser chercher pendant une petite pause musicale. Hein. On va écouter tout de suite les Maroon 5, She Will Be Loved.
Les jardinières.
Les jardinières, c'est jusqu'à 8h. Vous pouvez poser vos questions encore pendant un quart d'heure. Par SMS, par exemple, vous tapez jardin, un espace, votre question et vous envoyez ce message au 939. Vous pouvez aussi directement nous appeler au 0901 70 20 20, c'est 36 centimes la minute, ou alors via le formulaire disponible sur la page des jardinières sur nos sites internet. On parlait rosier juste avant la pause.
Et justement, c'était Gabriel qui nous avait envoyé un SMS au sujet d'un rosier un peu spécial, un magnifique rosier de Banks Alba Plena. Elle demandait si elle pouvait espérer que les feuilles que le rosier a perdues à cause du froid reviennent ou si elle devait prévoir l'achat d'un plan de remplacement pour ce magnifique rosier. Philippe Détra, vous avez fait quelques recherches sur cette plante. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Gabriel ?
Ouais, c'était vite fait d'ailleurs. Peut-être même que j'en ai un, mais j'ai oublié. Donc, c'est des toutes petites fleurs très parfumées, à fleurs doubles, magnifiques. C'est grimpant, donc c'est un rosier liane, un peu, si on veut. Il est un tout petit peu délicat au froid. Ça, j'ai trouvé les infos sur rosier.ch.
Qui est... Rosier.ch, tout simplement.
Rosier.ch, au pluriel, qui est le site d'un ami qui est rosieriste et qui se spécialise dans ce genre de rosier. Moi, je pense que tout simplement, alors ça, c'est clair, les feuilles qui sont tombées, elles ne vont pas remonter. Elles vont, mais probablement, il y aura des nouvelles sorties de feuilles au printemps prochain. Donc, ça, à mon avis, pas d'inquiétude. Non.
Ce genre de rosier, ça pousse facilement chez nous ?
C'est hyper vigoureux.
Oui, parce que c'est vrai que comme ça, en tout cas, si vous allez voir sur Internet, hein, les rosiers Banks Alba Plena, c'est magnifique. Hein, ça fait presque un peu féerique, le jardin d'Alice au Pays des Merveilles.
Il a juste un tout petit défaut. Enfin, si on peut parler de défaut, mais moi, je trouve que ce n'est pas un défaut. Il fleurit qu'une fois, au mois de mai.
Donc, voilà. Puis tout le reste de l'année, après...
C'est un petit peu, comme le disait Mylène, un peu comme le forsythia. Le forsythia fleurit en avril et en mai, puis après, on oublie. Quoi.
Voilà. On va parler d'un Dracanéa surprise. C'est une personne qui nous écrit, qui dit « J'ai jamais vraiment eu de plante, donc je n'ai pas trop la main verte. Pas longtemps après l'avoir installée chez moi, elle a remarqué que les feuilles ondulaient. Elle l'a mise près du radiateur pour la nuit, sauf que cette plante aime bien l'humidité. Elle croit aujourd'hui, elle essaie de mettre cette plante à environ 1,50 m de la fenêtre. » Elle n'a pas arrosé, elle a regardé un peu sur Internet, elle a suivi plusieurs conseils, mais les feuilles de sa plante blanchissent. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? C'est Odette de Porrentruy qui a ce problème. Alors, elles ondulent, elles blanchissent, elle a trop chaud.
Pauvre plante !
Je pense qu'on va aller au plus simple. Quand on a un Dracanéa, surprise, que faut-il faire pour qu'il vive ?
Alors, ce n'est pas Dracaena, c'est
Dracanéa.
Dracaena. Voilà.
Voilà.
Non, pas de souci. C'est juste la prononciation des noms de plantes en latin est un petit peu particulière.
Et c'est moi surprise après, alors finalement.
Surprise, je vois pas. Bon. Ça, c'est aucune idée. Hein. Maintenant, les Dracaena sont des plantes vertes hyper résistantes qu'on trouve beaucoup dans le commerce et c'est. Il faudrait trouver son nom d'espèce. Il y en a certains que j'aime pas vendre parce que c'est des plantes à soucis. On a le bout des feuilles qui sèche, c'est pas beau. On sait pas quoi faire. C'est extrémités qui sèchent. Donc voilà. Mais sinon, c'est une plante relativement solide. Maintenant, si elle blanchit, franchement, j'ai l'impression qu'elle a peut-être été trop exposée au soleil. Ça, c'est possible. Mm-hmm. Si elle ondule, il y a parfois des variétés qui ondulent naturellement. Donc, c'est peut-être pas si surprenant que ça, si on parle de surprise.
C'est peut-être ça, en fait.
Je sais pas. Ça, ça, Ça dépend de l'espèce. Si on avait une photo, ce serait plus simple.
Alors, si on regarde sur Internet, hein, je me suis permis d'aller... c'est vrai que les photos qu'on voit, les feuilles, elles font un peu des vagues, comme ça.
Ouais, voilà. Ouais, ouais.
Ah, donc c'est normal, finalement, pour cette espèce-là.
C'est pas complètement anormal, voilà.
On dirait un peu une coupe de cheveux le matin au réveil, pour vous faire une idée.
Voilà. Pauvre plante. Donc finalement, l'exposition au soleil pour la blancheur hein, donc des feuilles, ça, c'est principalement
ça, c'est possible, ouais. Ouais. Et puis sinon, c'est des plantes vachement résistantes. Hein. Mm-hmm. Moi, je connais, mon amie par exemple, a une plante qu'elle a achetée peut-être il y a 20 ans. Elle est toujours dans son pot d'origine, toujours dans le même coin de la pièce.
Incroyable.
Et puis elle va super bien. Ouais. Donc ça pardonne pas mal.
Eh ouais, effectivement. Donc rappelez-nous la prononciation exacte latine de cette.
Alors, on peut dire Dracaena, ouais. Ou Drasaena. Voilà. En principe, voilà. En latin, on prononce toutes les lettres comme en allemand.
On va parler de terrain, Philippe Détras, avec une personne qui. Deux personnes, Mathilde et Jérôme, ils sont deux à nous écrire, qui viennent de récupérer un peu de terrain pour notre maison. Et nous avons un terrain de 60 mètres carrés. Le sol semble argileux. Tout est à faire. Pour pouvoir faire pousser ne serait-ce qu'un petit peu de gazon, que vaut-il mieux faire ? Amener de la terre végétale, amener du compost pour fertiliser la terre ou simplement biner cette terre ? Ils sont novices, hein, ces deux personnes qui donc, viennent d'acquérir ce terrain. Philippe, est-ce que vous pouvez leur venir en aide ?
Alors, là aussi, un sol très argileux, c'est un sol qui va se... Il va venir très dur en été quand il fera sec. Quand il pleuvra, il ne va pas absorber l'eau. Donc, ça va être vite, genre piscine.
Ah ouais, c'est vraiment pas propice au jardinage.
C'est vrai. Mmh. Donc, c'est vrai qu'il faudrait probablement rajouter du compost, un petit peu de tourbe, du sable ou des choses comme ça. Mais je pense qu'ils ont meilleur temps de demander à un paysagiste, puis de voir sur place.
Ouais, parce que ça dépend. 60
mètres, ce n'est pas énorme.
Ça dépend de l'endroit où ils sont, peut-être. Mais là, ce n'est pas précisé, malheureusement.
Ouais. Et puis, il y a quelques minutes, on parlait de ce jardin potager en bac. Donc, c'est toujours la même chose. Un mélange toujours. Les mélanges de substrat, de terre, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, si c'est trop argileux, il faut ajouter un petit peu le contraire.
Pour faire une balance.
Voilà.
On va parler d'arbres fruitiers en pot. C'est Isabelle qui nous a écrit. Elle dit « J'ai 3 fruitiers nains en pot qu'elle n'a pas eu le temps de planter dans son jardin en automne. Quel est le risque de les planter au printemps ?» Elle se demande « Est-ce que c'est possible ?»
Pas zéro risque. Elle peut le faire quand elle veut, tant que le sol n'est pas gelé. Donc, non, ce n'est pas un souci quoi. Au printemps. Mais alors, si possible, avant que ça... Ce qu'on appelle avant que les bourgeons débourrent, c'est-à-dire avant que les bourgeons gonflent et s'ouvrent. Parce que sinon, elle va stresser la plante. Donc, elle peut le faire maintenant s'il n'y a pas de neige, par exemple. Par exemple, s'il n'y a pas de neige. Mais elles font rapidement. Sur le littoral, elles font assez rapidement. C'est vrai qu'il a neigé ces jours, mais le soir, il ne reste plus grand-chose.
Et puis, on fait un simple trou, et puis on met l'arbre où il y a des choses à prévoir.
On fait un trou. Moi, je conseille toujours de faire un trou du double de volume du pot. Mm-hmm. Non, de façon à avoir une terre un petit peu meuble autour de la motte qu'elle va ensuite mettre dans ce trou. Donc ça ameublit un petit peu le sol et ça va permettre aux racines de la motte de pouvoir, pouvoir partir assez facilement dans le sol.
Ok.
Ben voilà, on arrive bientôt à la fin de notre émission. Philippe Détras, nous sommes le 2 février, évidemment, encore en plein hiver. Est-ce que vous avez un petit conseil général, là, comme ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, peut-être pour faciliter la vie de notre jardin ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre de l'avance ? Est-ce qu'il y a des impératifs à cette période de l'année pour le jardinage ?
Alors, comme je l'ai dit aussi en début d'émission, planter les idées.
Voilà.
Donc, regardez un petit peu. Enfin, imaginez ce que vous voulez faire de votre jardin potager. Nous, en ce moment, on est en train de mettre le matériel en ordre, c'est-à-dire de faire des petites réparations d'outils et des choses comme ça, de façon à pas être enquiquiné lorsque les beaux jours viendront et que ça nous grattera.
Exactement. Ben voilà. Le temps passe vite, en tout cas quand on s'amuse, surtout avec vous Philippe Détras. On approche de la fin de l'émission. Merci d'avoir bravé le froid de si bon matin pour répondre aux questions de nos auditeurs. On vous souhaite une excellente journée et à bientôt.
Merci beaucoup et à bientôt.
Et nous serons de retour samedi prochain pour que vous, qui n'avez pas pu poser vos questions aujourd'hui, puissiez obtenir une réponse. Vous pouvez nous les transmettre dès maintenant par SMS au 939, toujours tapis jardin, un espace, votre question, ou grâce au formulaire sur nos sites internet. Et vos questions seront traitées en priorité samedi prochain. On vous souhaite un très bon week-end et à bientôt.
Excellent week-end.
7h, 8h, les jardiniers.